Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour, mais vendredi, Martin m'a sauvé la vie. Alors voilà, journée noire, mal commencée quand j'ai découvert que Franck Haez, entraîneur de Lens, allait instaurer une rotation des gardiens dans son club. Alors oui, vous allez dire, mais c'est quoi le problème ? Bah, eh bien, c'est que je joue à MPG et que j'ai Leka en gardien numéro 1 et surtout Mandanda en gardien numéro 2. Et là, vous voyez bien le problème que j'avais. C'est si Leka ne joue pas ce week-end et que Mandanda non plus, ce qui a priori sera le cas, bah j'étais coincé, j'avais plus de gardien pour faire mon équipe. Bref, j'étais dans la pire situation possible avec la perspective de prendre un 8 ou 9-0. Ça aurait gâché mon début de saison qui est, il faut dire, excellent puisque je suis deuxième de la Ligue. Et puis Martin...
Après une journée, hein, je précise.
T'es combien Martin ?
Après une journée.
Et puis Martin, que je qualifierais de renard au grand cœur, m'a fait une proposition que je ne pouvais pas refuser, comme Marlon Brando dans Le Parrain. Un prêt de Paulo Lopez contre Martin Terrier pour 4 journées. Ah, j'étais dos au mur, ouais, j'ai pas refusé. En cliquant sur le bouton accepter de l'appli de MPG, je me suis dit, l'interprétation de Basique par Martin, que j'aurais bien diffusé toutes les semaines, les blagues sur la balance, sur les kilos pris, sur la nourriture, toutes ces choses-là, je me suis dit, ah, tu peux plus Maxime là, il t'a sauvé les miches. Alors c'est vrai, je vais m'arrêter. Et puis non, peut-être pas quand même. Parce que dans la balance, j'ai quand même mis cette intro que je suis en train de lire, que j'ai faite, parce que Martin, lui, n'avait pas d'idée. Donc on est quitte, on va partir du principe qu'on est quitte, et on reprendra les hostilités la semaine prochaine.
En fait, Maxime, je t'ai prêté un joueur. Tu sais, c'est comme quand Angers prête des joueurs à la Saint-Etienne. Ils ont refourgué tous les fonds de cas à la Saint-Etienne qui est 20e et qui ne représente aucun danger pour eux.
Ouais.
C'est un peu pareil.
Bref.
J'ai prêté un gardien. C'est le bon samaritain, c'est-à-dire que moi, j'ai plein de gardiens, je ne sais pas quoi en faire. Toi, tu es en galère. Puis... T'étais ronchon.
Non, parce qu'il faut expliquer. Alors, ceux qui jouent MPG vont comprendre. Ceux qui ne jouent pas se sentiront peut-être exclus, mais je suis quand même obligé de l'expliquer. On est dans une ligue où on est censé avoir un mode expert, c'est-à-dire où on peut faire des transferts.
Oh, punaise.
Le mode expert n'avait pas été déclenché après une journée. Et il se trouve qu'il n'était toujours pas déclenché. Et moi, je me retrouvais avec ce problème-là. Donc, je partais du principe que si on ne le déclenchait pas, pour moi, eh ben, il fallait pas le déclencher du tout parce qu'il y avait une inéquité dans le jeu, voilà. Et moi, j'aime bien l'égalité, j'aime bien tout ce qui est carré, tout ce qui est réglo.
Et puis, une dernière chose, Maxime. Les augmentations, c'est au mois de mars, non ?
Non, mais c'est déjà décidé, ça.
Mais ça, fallait me le dire avant. Bon, toujours est-il que tu as un gardien.
Ouais.
Que moi, j'ai récupéré Martin Terrier.
Voilà.
Donc, on est heureux tous les deux.
Et quand j'aurai gagné le titre, je pourrais te faire une petite dédicace.
Moi, bien sûr. Alors, si tu gagnes le titre, Maxime, mais si tu gagnes le titre, je t'appelle Dieu pendant toute une émission du FC Stream Team.
Ouais, alors là, si je voulais te motiver, là, il n'y a pas mieux. Je vais racheter des valises toutes les semaines.
Ah non, mais en restant dans les limites de l'acceptable.
Pas l'acceptable, une petite valise. C'est acceptable.
Ouais, mais tu profiterais de ton statut économique. Wow. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se le permettre. Et t'écraserais la ligue de ton pouvoir financier. Tu le reproches suffisamment au Paris Saint-Germain pour pas adopter les mêmes coutumes, Maxime.
Alors là, t'as fait la transition parce qu'on va parler justement finance aujourd'hui. On va parler des clubs qui sont costauds et qui se retrouvent un peu coincés, paradoxalement, par leur avantage financier. On va parler de 3 sujets. Le premier, on va parler de Kylian Mbappé et du mirage de cette prolongation qui, on n'est pas d'accord sur le constat, qui à mes yeux est encore possible. J'ai bien dit la prolongation et non pas rester. Et toi, Martin, pour toi, ce serait plus impossible de voir Mbappé prolonger son contrat aujourd'hui.
Exactement. Ensuite, on reviendra sur le fiasco de l'Algérie, éliminé dès le premier tour. Hein, le tenant du titre à la CAN, éliminé dès le premier tour. On accueillera Naïm Benedra, hein, qui est spécialiste du football algérien, avec qui on reviendra sur désillusion terrible des Fenech. Franchement, on ne s'y attendait pas. On va essayer de comprendre pourquoi. Et on finira avec le feuilleton de ce mercato d'hiver, Maxime.
Ouais, parce qu'on va le dire, ce mercato d'hiver est très chiant. Newcastle ne dépense pas ce qu'on espérait, donc il se passe pas grand chose, hormis du côté évidemment d'Ousmane Dembélé et de sa prolongation ou pas. On est arrivé à ce qui ressemble à un point de non-retour, c'est-à-dire le Barça qui a dit en gros, tu veux pas prolonger, tu fais tes valises parce qu'on te mettra sur le banc. Et ben on va essayer de se poser la question, on va essayer de tirer ça vers le haut, on va dire, et de réfléchir à qui la faute. Est-ce que c'est la faute du joueur? Est-ce que c'est la faute du Barça? Ou est-ce qu'il y aurait pas un troisième acteur qui a mis le bazar et qui n'est pas son agent, mais plus le système? On en parlera dans la troisième partie de l'émission. Émission que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez avoir automatiquement avec le petit bouton abonnement. Vous savez, il y a marqué, je ne sais pas, ça dépend des plateformes, il y a marqué abonnement. Vous cliquez, vous êtes abonné. Et dès que l'émission est prête, c'est-à-dire le vendredi en fin d'après-midi, elle arrive directement sur votre smartphone. Donc vous, évidemment, vous abonnez, vous mettez une super note, vous mettez des commentaires et puis on sera content.
Ah ouais, on sera très heureux. On sera très très heureux. On démarre avec le Paris Saint-Germain.
Et ben, on y va.
Parce que donc Maxime est arrivé en conférence de rédaction, si je puis dire, tout à l'heure, avec une idée un peu saugrenue. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va planter le décor. Vous le savez tous, le contrat de Kylian Mbappé arrive à échéance au Paris Saint-Germain au mois de juin. Donc il sera libre de s'engager où il veut, de partir libre du PSG. Et a priori, ça devrait être du côté du Real Madrid. Ces derniers temps, on entend quand même un petit bruit qui nous dit que Paris pourrait lui proposer un contrat court, que c'est peut-être pas tout à fait fait. Moi, je pars du principe que la prolongation aujourd'hui me semble impossible. Maxime, est-ce que pour toi, Mbappé pourrait prolonger avant la fin de son contrat le 30 juin ?
Alors pourquoi c'est pas aussi délirant de voir Mbappé prolonger ? J'ai bien dit prolonger et non pas rester, c'est différent. Bah, je vais vous l'expliquer. Déjà, je pense que cette solution de la prolongation courte, le Paris Saint-Germain aurait dû y penser bien avant. C'est-à-dire qu'à un moment où il était à 2 ans de la fin de son contrat, c'est pas de se dire il faut le prolonger 5 ans, mais on lui rajoute peut-être 1 ou 2 ans pour évidemment le vendre. Après Mbappé, il faut voir une chose, c'est que ça fait 5 ans qu'il est au PSG, ça fera 5 ans à l'été, quand il partira a priori au Real Madrid. Et c'est pas une paille, c'est pas anodin. Le joueur aura fait son temps au Paris Saint-Germain. Demandez à Monaco s'il n'aurait pas aimé le garder 5 ans. Voilà. On ne peut pas lui reprocher ça. Mbappé, il a un plan de carrière, tout simplement. Il l'a dit dès le début, c'était aller au Real. L'été dernier, il a dit « je veux partir », il a fait les choses proprement. Il aurait aimé que ça se fasse et que le Paris Saint-Germain récupère de l'argent. Et je ne vois pas pourquoi il ne penserait pas la même chose l'été prochain. Pourquoi ? Parce que Mbappé, il faut déjà sortir un peu du terrain et comprendre ce qu'est Mbappé. Mbappé, ce n'est pas un footballeur lambda sur le terrain, ce n'est pas un footballeur lambda à côté. Il a déjà conscience de l'empreinte qu'il veut laisser sur le football français. Il le dit souvent, regardez-le quand il vous dit je veux être une star, je l'assume. Ça, c'est, on pourrait dire, c'est incroyable de dire ça. J'apprends l'anglais pour ça. Il veut se donner tous les moyens de garder ce côté spécial, d'avoir un héritage. Souviens-toi, Martin, on a eu la chance de le rencontrer en 2017, en mai 2017. Ça va vous paraître un détail, à vous qui écoutez peut-être, mais pour des journalistes, ce n'est pas un détail. Ben, il était arrivé avec un quart d'heure d'avance au rendez-vous. Ça, honnêtement, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a conscience de l'image qu'il va rendre, de l'idée qu'il va donner de lui-même, ça compte. Et je pense pour le coup que sur le Paris Saint-Germain, il veut toujours faire les choses bien. C'est-à-dire que, en gros, entre laisser une image très classe au Paris Saint-Germain, que ces 5 ans soient, comment dire, couronnés de quelque chose de bien, que ça ne se termine pas en autre boudin, je pense que ça compte pour lui. Alors vous allez me dire, il pourrait s'asseoir en prolongeant 1 an sur une belle prime à la signature du Real Madrid, mais je ne suis même pas sûr que ça, cette prime à la signature, compte beaucoup plus à ses yeux que l'image et ce qu'il va rendre au Paris Saint-Germain en partant, c'est-à-dire partir proprement et partir comme une légende, tout simplement. J'ajoute quelque chose, parce que j'imagine que c'est l'argument qui vient après, mais oui, mais le Real, moi je pense que ça ne change rien. Regarde ce qu'ils avaient fait avec Eden Hazard. Quand il est venu au Real, il avait encore 1 an de contrat, ils n'ont pas attendu, ils ont lâché les 100 millions, tout simplement. C'est un joueur qui mérite ce prix-là, sur lequel le Real sait qu'il pourra faire de l'argent pendant 5, 6, 7, 8 ans. Je pense que ça ne pose pas de problème. Et donc c'est pour ça que je pense que Mbappé pourrait bien prolonger, pas tant pour une histoire d'argent, sinon pour remercier d'une certaine manière le PSG, mais pour montrer aussi qu'il n'a pas la mémoire courte et qu'il peut rendre ce qu'on lui a donné pendant 5 ans.
Donc ça, je ne l'avais pas vu venir que tu penses qu'Mbappé va prolonger parce qu'il est arrivé avec un quart d'heure d'avance à Eurosport en 2017. Non, je caricature, Maxime, je caricature.
Non, mais souviens-toi de l'image, et déjà à l'époque, ce qui rejaillissait du personnage.
Mais là, non. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que le Real, donc c'est le club dont il rêve depuis toujours, ça on est d'accord, si j'ai bien compris ton raisonnement. qui veulent partir du, proprement du PSG, pourquoi pas, mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire qu'Mbappé, il ne va pas prendre le risque de prolonger avec un club qui ne laisse jamais partir ses meilleurs joueurs. Jamais. Ça n'arrive jamais que le PSG vende ses meilleurs joueurs. Et même s'il a un accord, il sera sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc, il ne prendra jamais le risque de s'engager un an de plus avec un État qui veut en faire son étendard pour la Coupe du Monde. Donc, il y a aussi ça.
Ouais.
Coupe du Monde qui est organisée en novembre. Donc, il y a aussi ça. Moi, je pense que le PSG se fout bien de prendre 40 millions, 50 millions, 60 millions, 70 millions pour Kylian Mbappé. Je pense qu'ils s'en foutent royalement. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas le perdre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu pour le Paris Saint-Germain, c'est pas de prendre un chèque aussi gros soit-il, sinon il l'aurait fait l'année dernière. L'enjeu, c'est de le garder. Donc, le prolonger pour le vendre cet été, je ne pense même pas que ce soit intégré par le Paris Saint-Germain. Moi, j'entends plein de choses là depuis quelques jours. J'entends si Ndombele revient, comme c'est le pote de Mbappé, c'est un ami de Mbappé, on ne sait jamais. Si Zidane vient, c'est l'idole de Mbappé. Si le Real perd contre le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions, peut-être que. Si Paris lui donne le même salaire que Neymar ou Messi, si Paris en fait le numéro un du projet, si Paris lui propose un contrat de courte durée et qu'il a l'assurance de partir l'été prochain, moi, ce que je sens instinctivement, donc je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais ce que je sens instinctivement, et c'est ce que tu as dit, c'est que Paris peut tout faire. C'est que ce n'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire d'ego, c'est pas une histoire de marketing, c'est pas une histoire de je ne sais quoi, c'est pas une histoire de tout ça du tout. C'est, tu l'as dit très bien, Mbappé, il a un plan de carrière et rien ne le fera dévier. Club formateur, meilleur club français, meilleur club du monde. Mais c'est aussi simple que ça. Et il ne prendra jamais le risque que ce plan de carrière-là soit entravé par une prolongation de contrat.
Je suis d'accord, mais est-ce que tu penses sincèrement que si demain Mbappé va voir le Paris Saint-Germain, dit. En fait, tu as parlé, tu as raison, ce n'est pas une question d'argent au final, même si je pense que le PSG prendrait bien les 100 millions. C'est aussi l'image que tu vas laisser et est-ce que tu penses aussi que le Qatar, en prolongeant un an, serait capable de dire « Non, mais finalement, on ne le vend pas ». Là, tu parles de l'image.
Est-ce que l'image de Mbappé, elle est dégradée aujourd'hui ? On pouvait en douter en début de saison. Et on en parlait dans l'FC Stream Team.
Mais
on
se disait, à l'instant,
il va passer une saison horrible. Mais finalement,
il restera. Mais je suis d'accord. Le terrain, ça efface beaucoup de choses.
C'est ce qu'il y a sur le terrain. C'est pas parce qu'il va rapporter 50 millions d'euros.
Je pense que
près des supporters. Ce qu'il laisse sur le terrain pour l'instant, l'image est immaculée.
Non, mais s'il fait cet effort de dire, voilà, je pense que ça peut rehausser. Et encore une fois, je pense que c'est aussi une solution gagnant-gagnant pour les deux. C'est-à-dire que les deux sortent la tête haute, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas fait prendre encore un joueur gratos, en plus Mbappé, et en plus, on ramène de l'argent. Non, moi, je pense que, encore une fois, je suis d'accord avec toi, il ne restera pas, faut pas se leurrer. Tout ce qu'on entend, si Zidane vient, si ceci, si cela, non, lui, c'est réglé. C'est quand même un cas unique d'un joueur qui n'est pas parti dans un club encore et qui dit, mais moi, je vais aller là-bas. Sans que le club dise, mais nous, on va le prendre à ce moment-là. Non, c'est réglé, ça c'est réglé. Je pense que le voir j'aurais dit non en septembre, parce que c'était pas bon, ça allait pas bien pour lui. C'était encore trop frais. Je pense qu'aujourd'hui, que s'il y avait un gentleman agreement, et j'ai envie de croire et penser qu'il y a des gentlemen des deux côtés, qui se disent, j'ai envie de rendre à Paris ce qu'il m'a apporté, parce que je sais que lui n'est pas... Je ne suis pas sûr qu'il ait envie de prendre le risque, en fait, encore de gâcher ce qu'on dit, sa legacy, son héritage. Voilà.
Moi, je pense qu'il a de moins de raisons aujourd'hui de prolonger et de partir comme un prince qu'en septembre. Parce que là, au final, tout se passe très bien. Il fait une saison exceptionnelle. Oui. Donc finalement, son héritage dont on pouvait douter, c'est-à-dire son engagement, sa motivation, aujourd'hui, on ne peut pas en douter. C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Ce n'est même pas ça. Aujourd'hui, il porte cette équipe-là. Et donc aujourd'hui... Il n'a pas besoin de prolonger, de partir avec 50 ou 60 millions d'euros pour rehausser son image. Et dernière chose que je voudrais dire, je pense qu'aussi, aujourd'hui, il est bloqué aussi par le fait que Paris et le Real Madrid s'affrontent en huitième de finale de Ligue des Champions. Peut-être qu'il aurait communiqué sur quelque chose, peut-être qu'il aurait laissé entendre quelque chose. Mais de toute façon, tant que le huitième de finale retour de la Ligue des Champions n'aura pas lieu, il ne pourra pas s'exprimer sur ce sujet-là parce qu'on le taxera.
J'attends pas qu'il s'exprime dessus, mais je pense qu'en effet, tu as raison aujourd'hui. Dans l'absolu, tu dis il se fait pas siffler, ça se passe bien.
Non.
Mais on est au mois de janvier. Il y a la Ligue des Champions qui arrive. On ne sait jamais, voilà. Et encore une fois, on sait qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour gâcher l'affaire. Et je pense vraiment, je ne suis pas dans sa tête, mais j'arrive à imaginer que il suffit de le lire, de l'écouter. Regardez, il donne des interviews, il a compris, il va plus donner des interviews dans les journaux sportifs, il va à VSD, il va à Paris Match, il comprend ce qu'il y a autour et toute ce qu'il peut donner comme impression. Et je pense que pour lui, l'héritage est important. Je ne suis pas en train de te dire qu'il prolongerait à n'importe quel prix, entre guillemets, ou en ayant justement le risque de se faire coincer, mais je pense qu'il peut être sensible à ça, sachant que et j'ai à peu près zéro doute sur le fait que le Real ira l'acheter.
Je rappelle une chose, c'est que je doute encore de la motivation du Real l'an dernier à avoir voulu l'acheter à un an de la fin de son contrat. J'en doute. Et il y a beaucoup de gens qui en doutent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des offres, etc. Si demain, parce que ce que tu es en train de me dire, s'il prolonge, le Real devra faire une offre.
Non, mais j'ai aucun doute.
Ils sont aussi sur Hollande. Ils ont aussi été frappés par une crise économique. Demain, s'il prolonge Mbappé, il ne partira pas à 40 ou 50 millions d'euros.
Il part à 100. Voilà.
Est-ce que le Real Madrid, un joueur qu'ils ont aujourd'hui gratuitement, ils doivent sortir 100 millions d'euros pour un joueur qui prolongera quoi ? Un an ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un risque qu'il prendra.
Mais là, tu as raison, il y a eu la crise entre-temps, mais j'ai vu le Real faire des achats comme ça, pour Hazard, par exemple, au même prix, alors qu'il restait un an. C'est délirant.
Mais non. Oui, mais là, le transfert, il est déjà bouclé. Et puis, c'est un risque que prendrait Mbappé qui, pour moi, le jeu en voudrait pas la chandelle, tout simplement.
Le jeu en voudrait pas la chandelle, mais je pense que le Real prendrait le pari. Je serais très étonné que demain dise Real, même s'il y avait une indemnité à payer, dise déjà Haaland il est payant. Et je serais très étonné quand même parce qu'ils savent que Mbappé c'est leur Ronaldo des années 2020, donc il y a pas à chercher pour moi. On a parlé de Kylian Mbappé, maintenant on va parler de la CAN. On savait qu'on parlerait à un moment donné de l'Algérie en janvier ou en février. Bah, ça arrive plus tôt que prévu, puisque c'est l'immense surprise. L'Algérie, tenante du titre, a été sortie dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors pour analyser tout ça, on a invité Naïm Benedra, qui est journaliste à Gaulle, et qui va nous faire un peu le point sur la situation pour essayer de comprendre comment l'Algérie en est arrivée là. Salut Naïm.
Salut Maxime.
On va démarrer simplement. Alors moi, je vais te dire, ce crash de l'équipe d'Algérie me fait penser à quelque chose, c'est-à-dire la France 2002, avant la Coupe du Monde. Elle arrive belle, on se dit, mais rien peut l'arrêter. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on a vu après coup sur l'équipe de France de 2002, c'est que finalement, il y avait des signes avant-coureurs de ce qui allait arriver. Alors j'ai envie de te poser la question avec l'Algérie, est-ce que c'était complètement imprévisible ou est-ce que on pouvait trouver quand même des signes avant-coureurs à ce qui est arrivé au Cameroun durant la CAN?
Alors, si je me rappelle bien, en France, avec la France en 2002, il y avait un problème quand même disciplinaire, il y avait manque de rigueur, un petit relâchement après l'Euro. Et de ce côté-là, je ne pense pas que l'Algérie a failli parce que je pense que l'état d'esprit n'a pas été défaillant. Par contre, au niveau de jeu, je peux dire que ça fait une belle année où on n'est pas vraiment à la hauteur des attentes. Les 11 derniers matchs, je crois qu'on en a gagné que 4 ou 3. Donc voilà, de ce côté-là, il y a eu des signes avant-coureurs. Par contre, au niveau d'état d'esprit, au niveau du professionnalisme, non, il n'y a pas eu de problème.
Est-ce qu'il n'y a pas eu un autre problème pour moi? C'est qu'avant de se concentrer sur la CAN, moi, de ce que j'ai lu avant la compétition et même parfois pendant, c'est qu'on a l'impression que cette équipe-là était aussi avant tout aveuglée par son record d'invincibilité. Que ça, c'était une espèce d'obsession. Je me souviens de Jamel Belmadi qui disait « on veut planter le drapeau algérien », etc. Est-ce que finalement, ils n'en ont pas oublié l'essentiel?
Oui, c'est vrai, parce qu'il ne restait que 3 matchs pour atteindre le record de l'Italie. Et ça fait un bon moment qu'on en parlait. Après, étirer la longue série d'invincibilité, ça va de pair aussi avec les objectifs. Donc, je ne pense pas que ça a pu se répercuter sur le moral des joueurs. Donc, je crois que même en étant… C'était une motivation supplémentaire, si vous voulez. Donc, je ne pense pas que c'était le principal facteur qui a fait que l'Algérie a failli dans cette compétition.
Mais est-ce que, par ricochet, en fait, la défaite lors du deuxième match, ça n'a pas justement cassé ce ressort parce que du coup, le record n'était plus atteignable. Et on a vu quand même une équipe d'Algérie face à la Côte d'Ivoire qui était absolument, ouais, qui était cassée, qui était brisée.
Exact, exact. Le dernier match, c'était vraiment catastrophique. Après, si on regarde les problèmes, n'ont pas démarré avec le match contre la Côte d'Ivoire. Ça a été dès la première rencontre, je crois que Dès le début, on n'a pas su assumer notre statut de favori, notre statut de tenant du titre. On a vu beaucoup de sélections au XXIe siècle qui ont failli dans ce domaine et c'était un peu la même malédiction. Donc, je ne crois pas qu'il y a eu un problème au niveau de la motivation, il n'y a pas eu de nonchalance. Par contre, là, on a failli, je pense qu'on n'a pas su répondre lorsqu'on était dos au mur. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie n'a pas été menée au score avant la Coupe d'Afrique depuis 3 ans, depuis le match contre le Bénin en éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2019, en match officiel. Et en match amical, il y a eu juste le Mexique où on a été mené au score. Donc de ce côté-là, on n'a pas trop su trouver les ressorts nécessaires pour réagir. Il n'y a pas eu les mêmes ressources mentales que durant la Coupe d'Afrique 2019. Donc voilà, je pense que le problème vient surtout de là. Donc, et les problèmes sont apparus encore une fois dès le premier match contre le Sierra Leone. Après, c'était un peu, la Côte d'Ivoire, c'est un peu le bouquet final, si je puis dire. C'est un peu le coup de grâce.
C'est le Danemark, le Danemark 2002.
Oui, il y a beaucoup de similitudes par rapport à la France au niveau des mathématiques. On a réussi à éviter le zéro pointé par rapport au but. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui sont comparables. Après, je me rappelle que la France, il y avait aussi l'absence de Zinedine Zidane.
Quand même, ouais.
Ah ouais, donc voilà. Ouais. Et nous, c'est un peu collectivement qu'on a failli.
Et la France, pour faire le lien, il y avait aussi un problème avec son sélectionneur. Pour l'Algérie, il n'y avait pas de problème avec Belmadi. J'ai envie de dire, où en est le regard, justement, sur le technicien? Alors, on sait qu'il y a les barrages pour la Coupe du Monde qui arrivent vite. Mais est-ce que sa cote en a pris un coup? Est-ce que tu penses aussi, tout simplement, que s'il n'y avait pas les barrages à venir, il pourrait être dehors ou non?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il a suffisamment fait monter sa cote pour qu'on puisse tout remettre en question dès le premier tournoi raté. Après, là où je te rejoins, c'est qu'avant, il n'était pas trop contesté. On n'osait pas vraiment critiquer ses choix. Là, après cette Coupe d'Afrique, on ne va pas s'en priver parce qu'on a aperçu qu'il y a un problème de régénération de l'effectif. Il y avait des statuts qui étaient figés, et il y avait des cadres qui n'étaient pas assez remis en question. Il manquait d'émulation, il manquait de concurrence pour que ceux qui avaient triomphé en 2019 puissent un peu se remettre en question. Donc Belmadi, il les a protégés, il les a couverts. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il s'est un peu trompé. Donc là, on attend de lui que lui aussi se remette en question dans ses choix d'hommes. Et donc voilà, il n'a plus le droit à l'erreur parce que la Coupe du Monde, il ne faut pas la rater. C'est le principal objectif.
Et alors, dans ce que tu dis, celui qui incarne ça, c'est quand même Riyad Mahrez qui est passé à côté de son tournant. On peut parler quasiment de tout le secteur offensif, hein. Puisque l'attaque était complètement éteinte, tu l'as dit, un seul but en 3 matchs. Slimani qui est catastrophique, mais bon, Mahrez, il incarne peut-être tout ça. Quand tu parles de statut, de joueurs qui ont été protégés, de ceux qui ont gagné la dernière CAN, à qui est manqué peut-être un peu de concurrence, est-ce que Mahrez, il va être mis en cause aussi en Algérie, plus peut-être qu'un Belmadi? Est-ce que c'est plutôt les joueurs qui vont prendre?
Non, je ne pense pas. Mahrez, il fait partie d'un groupe, il fait aussi partie d'un groupe de tauliers. Lui, il symbolise un peu la faillite de ces tauliers, il n'a pas été le seul. Et donc, il y a aussi Bounedja, il y a Slimani, donc la plupart des joueurs offensifs. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était par rapport à ce qu'ils ont fait en Coupe d'Afrique 2019 qu'ils ont été méconnaissables. Je ne pense pas qu'on va le pousser dehors. Cela dit, il y a quand même eu le fait que Belmadi n'a jamais osé de le remplacer. Et donc, il avait une sorte de statut qui était assez à part. Mais là, avec ce qu'il a montré durant cette Coupe d'Afrique, lui aussi, il a vu son crédit baisser quelque peu. Et j'ai envie de dire que ce qu'on lui a pardonné par le passé, là, c'est plus possible. Et il faut que lui aussi se remette en question. Mais bon, ça reste un joueur qui est un grand joueur, donc un joueur de niveau mondial. Et on peut des fois passer à côté d'un tournoi. L'essentiel, c'est que sur la durée, il puisse être performant.
Et l'essentiel maintenant pour l'Algérie, c'est donc de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ce serait la cinquième, il me semble. Évidemment, c'est l'événement de la fin d'année. Merci Naïm d'avoir été avec nous. Naïm Benedra, journaliste à Gaul. Et puis, bah, bonne chance pour les barrages. Et puis, direction le Qatar après.
Merci, Inch'Allah, comme on dit.
Merci.
Merci.
Au revoir. Au revoir, les gars.
Bon, Martin, on vient en Europe et on va parler mercato pour terminer, mercato hivernal, où il ne se passe pas grand-chose, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que je n'aime pas le mercato hivernal. Mais on va quand même parler d'Ousmane Dembélé, du FC Barcelone. Et on va se poser la question, si on est arrivé dans cette impasse, Martin, bah, à qui la faute simplement?
Moi, si j'ai bien compris dans cette histoire, Dembélé voulait rester, Xavi et le Barça voulaient qu'il reste. Donc visiblement, il y a quelqu'un qui ment dans cette histoire. Parce que généralement, quand tout le monde est d'accord, on arrive à se mettre autour d'une table et à discuter et à trouver un accord surtout. Aujourd'hui, tout est étalé sur la place publique, donc ça, ce n'est pas un bon signe. Et on était dans une bataille de chiffres. On est aujourd'hui dans une bataille de communiqués. On est dans une bataille de communication. On est dans une bataille d'images. Je pense que c'est... Je ne suis pas sûr qu'il y ait un bon et un méchant dans cette histoire. Je pense que Dembélé... et où son agent sont hors marché, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils ont poussé le curseur trop loin. Dembélé est un joueur à 12 millions d'euros par an, c'est déjà trop au vu de son rendement. Ils ont profité de la situation contractuelle du joueur, donc qui est en fin de contrat au mois de juin, pour essayer de gratter plus. Je pense que c'est une erreur d'un point de vue. Je ne sais pas combien ils ont demandé au FC Barcelone, parce que je ne vais pas me fier aux chiffres de la presse espagnole. Parce que c'est le porte-voix du FC Barcelone, donc je n'y crois pas. Mais le Barça aussi fait une erreur pour moi en mettant à l'écart Dembélé. Dembélé, il a un contrat, il lui reste 6 mois de contrat. À la limite, quelles que soient ses prétentions financières, quel que soit ce qu'il veut réellement, peu importe, il est sous contrat avec le FC Barcelone, tu n'as pas à l'écarter, c'est toi qui lui as offert ce contrat-là, tu le fais jouer jusqu'à la fin de son contrat. Je pense que l'erreur initiale, elle est peut-être du clan Dembélé, mais la réaction du FC Barcelone, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Regardez Pogba, regardez Mbappé, ils sont tous en fin de contrat, évidemment avec des contrats différents, avec des situations sportives différentes. Il y a je ne sais combien de grands joueurs aujourd'hui qui sont en fin de contrat, il y en a plein. Ça ne se passe jamais comme ça. Et le FC Barcelone met trop souvent la pression sur ses joueurs. On pense à Braithwaite, on pense à Coutinho. Il y en a eu des joueurs à qui le FC Barcelone a mis la pression, parce que l'erreur initiale, c'est d'avoir donné des gros contrats à ces joueurs-là. Donc l'erreur, même l'erreur de base, elle est du côté du FC Barcelone. Et aujourd'hui, ils le mangent en pleine face.
Parce que l'erreur a été répétée, c'est-à-dire que tu fais l'erreur une fois sur un joueur, ok, ça va. Mais quand tu le fais sur tout le monde, bah, c'est eux qui te tiennent par la gorge et c'est ce qui arrive. La situation, en plus, s'est dégradée. On va voir ce qui s'est dit ces derniers jours dans la sphère du FC Barcelone. Alors, il y a Matteo Alemany qui a dit, en gros, à un jour de la fin du mercato, il n'a toujours pas prolongé, il refuse nos offres. Depuis 6 mois, à travers son agent, nous estimons qu'il ne peut pas faire partie de notre projet et nous envisageons donc un départ. Réponse qui n'a pas tardé de Ousmane Dembélé, qui lui, il y allait sur un long post Instagram que je vais vous résumer ici. Toujours sous contrat, je suis pleinement concerné à la disposition de mon club. Je me suis toujours donné à fond pour mes coéquipiers ainsi que pour l'ensemble des supporters, etc. Certainement que l'amour n'est qu'une variante du chantage. Bah, ça, il est un peu ironique. Il fait le job, voilà. Alors, qui est fautif? Tu l'as dit, mais au fond, les fautes sont partagées. Déjà, Ousmane Dembélé, tu as parlé de son salaire, mais en vrai, pendant 4 ans et demi, est-ce qu'il a fait ce que le Barça attendait de lui et des espoirs placés en lui? Non. Alors, il y a les blessures, ok, mais on sait que les blessures ne sont pas que de la déveine. Donc à quel moment aujourd'hui Ousmane Dembélé se dit je vais prolonger en haussant mon salaire? T'as raison sur les sommes, c'est peut-être un peu beaucoup ce qu'a sorti la presse espagnole, mais j'ai du mal à imaginer qu'il est
oui, et puis on peut comprendre que le FC Barcelone tienne compte de ces facteurs là c'est-à-dire de ce qu'a fait Ousmane Dembélé depuis 4 ans et demi.
Exactement.
Dans une négociation, c'est même la base. On a l'impression au contraire que le clan Dembélé, lui, n'en tient pas compte, et c'est ça qui me pose foncièrement un problème au départ dans ces négociations.
Et si le joueur aime le club qu'il est responsable, il se dit aussi je vais faire un effort, ça va de soi. S'il a vraiment envie de rester, il voit la situation comptable, il suffit de lui ouvrir les tables de compte et lui dire non mais là on peut pas te payer ça. Donc c'est un peu aberrant. Après, la faute du FC Barcelone, finalement, tu l'as résumé, c'est de payer n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. C'est-à-dire que pendant les années, ça a vécu au-dessus de ses moyens, et maintenant il se retrouve le bec dans l'eau. Regardez Umtiti, qui prolonge, qui lisse son salaire. Mais c'est bien de lisser le salaire. Ça aide les comptes là, mais c'est toujours une fuite en avant. Et à l'arrivée, le salaire, ils le doivent toujours à Umtiti. Donc c'est toujours du bricolage. Et qu'un club comme ça en soit arrivé là, c'est problématique. Après, moi, ce que je n'aime pas, c'est le chantage. Voilà. Là, il a raison, Ousmane Dembélé. C'est-à-dire qu'un club qui dit à un joueur qui est sous contrat et qui finalement fait le job, parce que est-ce que Dembélé est en dehors de la règle là? Mais non, il n'est pas en dehors de la règle. Il a encore 6 mois de contrat. Il joue jusqu'au bout, il fait le job. Et son droit, je dis bien son droit, c'est important, c'est de prolonger ou de ne pas prolonger. C'est un marché libre, il faut l'accepter. Maintenant, il y a un troisième acteur qui vient foutre le bazar là-dedans et que j'en ai un petit peu parlé déjà auparavant. C'est évidemment de la manière dont est organisé le marché des transferts qui prête aussi à ça. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas qu'on n'en soit toujours pas à tenter de réformer ce marché. Là, on sait que la FIFA a fait un petit pas en avant sur les prêts. Mais les transferts, c'est une aberration parce que les clubs aujourd'hui, et le Barça, ce n'est pas l'exemple le plus probant, il y a des clubs quand même qui vivent des ventes de joueurs. C'est une aberration absolue. Ça ne peut pas être ça, l'alpha et l'oméga d'un budget. Parce que justement, il y a trop d'aléas. Regardez ce qui se passe avec le Barça, même avec d'autres clubs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une crise, vous avez acheté un joueur qui valait peut-être 26 millions au moment où vous l'avez acheté. Entre-temps, il y a une crise, le joueur n'est plus vendable, vous vous mettez en péril. Moi, je pense qu'il est temps de revoir ce système de marché des transferts. Et quand vous aurez des joueurs façon sport américain qui sont juste indexés sur leur salaire et qui ont une valeur qui est liée au salaire restant sur le contrat et qui pourront, par exemple, être échangeables avec des joueurs de valeur égale ou libre en fin de contrat, on aura beaucoup moins de problèmes et beaucoup moins de chantage à la prolongation parce que le Barça, ce qu'il fait avec Mbappé, je sais pas pourquoi Mbappé à chaque fois, on en a parlé dans le premier sujet avec Dembélé. Plein d'autres clubs le font et je trouve ça complètement inique de dire à un joueur, tu veux pas prolonger, eh ben, on te met de côté, tu n'as plus le droit de jouer. Et ça, c'est honteux de faire ça.
Et aujourd'hui, donc, Dembélé vaudrait 20 millions d'euros. C'est ce qu'a annoncé là encore la presse espagnole. 20 millions d'euros pour. Il reste combien? Il reste 4 mois de compétition. 4 mois de compétition et pour être le premier à l'avoir aussi. Il y a aussi une hypothèse qu'il ne faut pas écarter, c'est que Dembélé se soit mis d'accord avec un autre club. Ça, c'est aussi une hypothèse qu'il ne faut pas écarter et qu'on peut prendre en compte. En tout cas, 20 millions d'euros, ce qui se dessine quand même, c'est que Dembélé aille au bout de son contrat, que à mon avis, ça se passera mal jusqu'à la fin du mercato d'hiver et puis il réintégrera les troupes parce que l'UFC Barcelone est un club trop malade et qui a trop besoin de ce joueur-là, mais comme beaucoup d'autres, pour s'en passer et se priver d'une, par exemple, d'une qualification en Ligue des Champions qui lui coûterait bien, bien, bien plus cher qu'une non-prolongation d'Ousmane Dembélé.
En fait, dans cette histoire, il y aurait potentiellement que des perdants. Le FC Barcelone, parce qu'il perdrait Dembélé, le mettrait de côté, et il perd quand même une force vive quand il est sur le terrain. Et donc, comme tu dis, se mettrait en péril pour une qualification Ligue des Champions. Et Dembélé qui passerait potentiellement 4 mois de plus sans jouer. Quand on sait le nombre de mois déjà qu'il a passé sur le flanc sans jouer, ce serait...
Et qu'il y a une Coupe du Monde au Qatar dans quelques mois.
Et qu'il y a une Coupe du Monde au Qatar dont il est tenant, puisqu'il est champion du monde, ce serait vraiment triste et on n'a pas tellement envie d'en arriver là. Moi, je pensais honnêtement, il y a quelques jours, que les deux allaient arriver à se mettre d'accord, prolonger, parce que je me disais, on est dans une négociation logique. Là, c'est vrai que la tournure, l'aigreur qu'ont pris les événements me fait quand même un peu douter.
On en a terminé, Maxime ?
Je crois qu'on en a terminé.
Merci à toi. J'espère que tu gagneras quand même ta petite partie de MPG ce week-end. Hein. Celle-ci, tu me la devras un petit peu. Tu vois,
c'est
3 points
que
tu me
devras. Je te devrais peut-être 3-4% de mon titre. Mais ça comptera à la fin. Ça comptera.
Heureusement qu'MPG, c'est des ligues fermées, Maxime. Sinon, il y a bien longtemps qu'on ne jouerait plus ensemble.
Il y a longtemps que tu ne serais plus dans la ligue. Non, mais alors là, je l'ai déjà dit ici. Je vais refaire le bilan de nos... Je vais prendre un jour une intro qui va durer 10 minutes où je vais prendre saison par saison nos classements respectifs. On a gagné une fois tous les deux.
Mmh. Oui.
Et la différence, c'est que moi, quand j'ai gagné, tu n'étais même pas dans mon rétro. Et toi, quand tu as gagné, c'était moi le deuxième. Tu vois, déjà, d'accord, ça résume un peu le truc. Mais moi, je suis toujours sur les hauteurs. Hein. Moi, je suis le club de Ligue 1 qui vise toujours la troisième place, tu vois. Et quand ça rigole, ça passe bien. Et puis ça fait...
Qui vise la troisième passe, mais qui n'avait pas de gardien il y a 2 heures. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Maxime ?
Ouais, exactement.
On remercie Adrien, évidemment, ouais. Quentin pour les visuels. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro UFC Stream Team. Ciao, ciao.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.